Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Jésus, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Seigneur, oui Seigneur, quelle que soit la rébellion de l'homme, quelle que soit sa méchanceté, Seigneur, tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus de toutes les puissances sataniques. Tu es au-dessus de la puissance de Satan. Seigneur, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils te sont soumis. Et c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot sur la terre. Parmi toutes les rébellions des hommes, toutes les violences des hommes, toutes les méchancetés des hommes, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot, car tu règnes. Et cette terre est à toi. Et cet univers, c'est toi qui l'as créé. Rien de ce qu'il y a dans l'univers n'a été sans toi. Rien de ce que, Seigneur, nos yeux peuvent voir ou ne peuvent pas voir n'a été créé sans toi. Tu es la source. Tu es le Créateur. Et Seigneur, devant ta majesté, nous nous prosternons. Ô Jésus, oui, nous acceptons, nous voulons, nous désirons être soumis à toi. Car Seigneur, là se trouve la vraie liberté, le vrai bonheur, dans le chemin de l'obéissance, de la soumission à toi, ô Seigneur. Ô Jésus, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Parle-nous, Seigneur. Merci. Dans le psaume 37, le psaume 37, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, nous lisons ceci. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. S'attendre à l'Éternel. Voilà le secret du succès de la vie des enfants de Dieu. Garde le silence. Ce n'est pas à force d'argumentation. Ce n'est pas à force de cris, ce n'est pas à force d'argumentation quelconque que nous avons un succès, quelle que soit l'opposition à laquelle nous devons faire face. Opposition satanique, opposition de la part de ceux qui nous haïssent. Garde le silence devant l'Éternel. Il connaît tes soupirs, il connaît tes désirs et rien n'est caché devant lui. Et attends-toi à lui, mets ta confiance en lui. Attends-toi à ce qu'il prenne soin de toi, à ce qu'il te secoure dans les moments de besoin, au milieu de ta détresse et de ton malheur. Attends-toi à l'Éternel, repose-toi sur lui. À quoi cela sert-il de te faire tant de soucis et de passer des nuits blanches en ressassant dans ta tête toutes tes luttes, tous tes combats, toutes les injustices auxquelles tu as à faire face. Repose-toi sur lui. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre lui. Ceci ne t'apportera aucun bien. Aucun bien. Contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Pourquoi t'irriter ? Apporte tout cela aux pieds de ton Sauveur, et lui prendra ta cause en main. N'a-t-il pas dit à moi la rétribution, à moi la vengeance? Pourquoi devrais-tu t'irriter et te venger? Non! Non! Tout cela appartient à ton Dieu. Quant à toi, tu maintiens ta route dans l'amour du prochain, dans l'amour de tes ennemis, et tu suis le chemin qu'il t'a tracé avec assurance et confiance. Laisse la colère, abandonne la fureur. Pourquoi te mettre en colère? Pourquoi être dans la fureur contre ton prochain? Laisse ça de côté. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ce serait mal faire. car ceux qui font le mal seront retranchés. Ah, voilà ce qu'il dit. Toi, tu n'as pas le pouvoir de faire cela, mais lui n'est-il pas le créateur de toutes choses? Ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Il est à la porte. Encore un peu de temps. Le méchant t'opprime. Mais pourquoi te mettre en colère? Le méchant est injuste avec toi. Et il fait toutes sortes de choses contre toi. Et tu ne trouves pas de solution. C'est l'injustice sur tous les plans. C'est la corruption de partout. Pourquoi te mettre en colère? Pourquoi? Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Seulement, écoute, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Patience. Regarde à ton Dieu. Il tient le monde dans sa main. Dans peu de temps. Oui, dans peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Lisons encore, versets 21 à 22 du même chapitre. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays. 21 d'abord. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés. Remarquez dans ces quelques passages, plusieurs fois, il est parlé de posséder le pays. De posséder le pays. Vous voyez, au verset 21, le méchant emprunte, elle ne rend pas. J'espère qu'il n'y a pas de méchant dans ce lieu. Peut-être vous avez emprunté de l'argent et vous êtes couvert de dettes. Et quand vous pouvez payer la dette, vous ne payez pas la dette. Et vous gardez l'argent qu'on vous doit. Et vous le gardez. Sachez que vous êtes un méchant. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Ah, quel contraste, n'est-ce pas? Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays. Et ceux qu'il maudit seront retranchés. Deux fois, il est dit cela. Le méchant sera retranché. Il ne sera plus. Et trois fois, il est répété que le juste possédera le pays. Frères et sœurs, c'est un message d'espoir. Vous allez me dire, mais posséder le pays. Qui possède le pays? Qui possède le pays? Aujourd'hui, ce sont les méchants qui possèdent le pays. Ce sont les méchants qui possèdent le pays. Et nous qui avons cru, qu'est-ce que nous possédons? Nous devons nous battre pour avoir un petit morceau de terre. Et encore, quand on l'a, il y a contestation parce que d'autres, plus forts que nous, prétendent que c'est à eux. Et comme ils ont de l'argent, ils payent leur soi-disant droit à cette terre, alors que cette terre nous appartenait. Que veut dire Dieu quand il dit que les justes posséderont le pays? Qu'est-ce que cela veut dire? Car aujourd'hui, dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, nous voyons que le pays est possédé par des méchants. Par des méchants, que ce soit du plus haut de l'échelle jusqu'au plus bas de l'échelle, à travers la corruption, à travers le mensonge, à travers la violence, à travers les manipulations occultes, à travers les influences diverses et toutes sortes de manipulations que Dieu désapprouve. Et le juste est opprimé. Il est spolié, celui qui avait le droit, qui avait la justice pour lui, qui avait même les justifications légales, il est rejeté. Et le puissant, celui qui occupe la place, c'est lui qui possède le pays. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là? Eh bien, mes amis, quand il est parlé du pays, c'est le pays de la promesse où nous allons. Nous avons parlé déjà depuis combien de dimanches sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Voilà de quoi Dieu veut parler. Il y a encore peu de temps. Jésus, le Seigneur, revient bientôt. Il est à la porte. Et les héritiers, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et si nous sommes opprimés quelque peu, croyez-moi que cette chose, cette oppression passera vite, car nous sommes héritiers avec le Seigneur de biens extraordinaires. Le roi des rois établira son royaume éternel. D'abord, dans un premier temps, il établira son royaume pour 1000 ans sur notre vieille terre. Et plus tard, à la suite des temps, sur la nouvelle terre, avec les nouveaux cieux qui seront une seule entité, qui feront un. Et ce sera un règne éternel, un règne incontesté, comme je le disais dimanche passé. Après tous les jugements qui tomberont sur cette terre, les jugements qui tomberont sur cette humanité rebelle, au milieu de laquelle l'Antéchrist sera manifesté, Dieu, Jésus, reviendra sur cette terre. Il posera ses pieds sur cette terre. Il purifiera cette terre. Et il règnera. Il règnera dans la ville de Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem. Cette ville tant contestée par les hommes jusqu'à aujourd'hui. Tant contestée à travers les âges. La ville de la paix. Que de sang a été versé sur cette ville. Dans cette ville, lisez l'histoire, les fleuves de sang qui ont coulé dans cette ville depuis des temps immémoriaux. Satan a voulu détruire cette ville lors de la conquête des Romains. Ils ont pris la ville de Jérusalem, ils l'ont rasée et ils ont même voulu changer son nom. Et en effet, ils ont changé son nom pendant une période de temps. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Jérusalem est restée Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. La ville du grand roi. Et c'est là, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, avec ses saints, car l'Église sera enlevée avant la manifestation et le règne de l'Antichrist. Tous ceux qui ont cru s'en iront avec lui dans la gloire. Et pendant 7 ans et demi, Les jugements de Dieu tomberont sur cette terre. Ils tomberont sur cette terre. Et il reviendra après 7 ans. Il reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers avec ses saints. Et il règnera à Jérusalem. Il y aura un grand tremblement de terre. Et une grande vallée sera ouverte, nous dit la parole de Dieu. Sera ouverte là, à cet endroit. Là où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il règnera à Jérusalem. Et il règnera avec un sceptre de fer sur le reste de l'humanité qui restera en vie après les jugements qui seront tombés sur cette terre. Ce sera un règne de paix, un règne de prospérité, un règne où l'environnement retrouvera enfin son équilibre. Un règne où il y aura la longévité et les hommes vivront bien plus d'années qu'ils ne le font aujourd'hui. Mais un règne qui sera contesté par une partie de l'humanité, non pas une contestation ouverte, mais une contestation fermée dans leur cœur, car beaucoup d'hommes et de femmes naîtront sur cette terre. Ils naîtront pendant ces mille ans, et tous ces gens de ces générations n'auront pas connu le monde que nous avons connu, nous. Ils seront au milieu d'une société en équilibre. Équilibre financier, équilibre spirituel, équilibre moral, avec des lois qui seront respectées, avec des règlements rigoureux. Il est dit qu'il règnera avec un sceptre de fer. Ce ne sera pas une démocratie, oh non! Ce ne sera pas la majorité qui décide. Oh non, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui décidera. Et il appliquera la loi, la justice, la sainteté. Il exigera de cette population qui augmentera de plus en plus la soumission à la parole de Dieu. Voilà, à la fin des temps, à la fin des 1000 ans, alors toute cette génération qui aura vécu dans cet équilibre et cette justice instituée par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, devront eux aussi choisir, comme nous, nous avons dû choisir pendant le temps que nous étions sur cette terre. Choisir qui nous voulons servir. Dieu n'a jamais imposé un régime à qui que ce soit ou une obligation à qui que ce soit. Il n'a fait que d'avertir et d'appeler les hommes à un libre choix, à une libre décision, à une libre décision. Et c'est ainsi que Satan sera relâché pendant une courte période. Et sa première action sera de séduire à nouveau les peuples et les nations pour fomenter une révolte. Ce sera sa dernière révolte et sa dernière guerre. Et beaucoup, malheureusement, choisiront son camp. Et ils voudront démolir et détruire le camp des saints. Jérusalem est la nation et le camp des saints. Car une autre partie de l'humanité voudra suivre le Messie, le Seigneur et le Sauveur, trouvant en lui ce dont ils avaient besoin. Oh, mes frères, beaucoup d'événements vont se passer, croyez-moi, et il y aura une dernière révolte. C'est à ce moment-là que Dieu se lèvera et que tous les hommes devront comparaître devant lui, de toutes les générations depuis la création, pour rendre compte selon leurs œuvres, selon leurs œuvres. Et chacun recevra selon ses œuvres une punition qui sera à l'échelle de ses fautes. Dieu est juste. Il est juste, soit pour la récompense, soit pour la punition. Soit pour la punition. Car les saints aussi devront rendre compte au tribunal de Christ. Et chacun recevra suivant sa fidélité. Suivant sa fidélité. Il nous est bien dit que quelques-uns perdront leur récompense. Ils seront sauvés comme à travers le feu parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont cru dans le sacrifice de la croix. Ils se sont repentis, mais ils n'ont pas été fidèles dans le travail et la tâche que Dieu leur avait confiée. Ils n'ont pas été fidèles. Ils ont suivi leurs propres ambitions personnelles. Ils ont gardé le salut, mais ils ont perdu leur récompense. Frères et sœurs, ces jours viennent, tandis que d'autres auront reçu et recevront une récompense selon la mesure de leur fidélité dans la tâche que Dieu leur a confiée. Car Dieu nous a sauvés pour un service. Il ne nous a pas sauvés simplement pour être assis et dire « Gloire à Dieu, je suis sauvé » et aller suivre notre propre chemin. Oh non, il nous a sauvés pour le servir. Il y a un service à accomplir pour chacun de nous sans exception. Un service à accomplir, un service pour notre prochain, un service en faveur des autres, un service en faveur du royaume des cieux. Nous avons un travail à faire. Réveillez-vous, faites attention, mes amis, car le jour arrive où nous serons évalués. Le jour arrive. Oui, c'est alors après que ce jugement, ce grand jugement du grand trône blanc dont nous parle la parole de Dieu, le trône de la justice, tout homme sera jugé. Et à ce moment-là, il va régner encore un règne incontesté, quoique sur la vieille terre, pendant ces 1000 ans, il y aura des hommes qui contesteront son règne dans leur cœur, car peut-être qu'ils auront une mémoire quelque peu pâle, peut-être, de la démocratie qu'on avait sur la terre. Et pour eux, ils pensent que le royaume des cieux sur la terre devrait être un royaume avec une démocratie. Mais Dieu ne sait que faire de la décision des hommes, pour la bonne raison que les hommes sont incapables de se gérer eux-mêmes dans la justice, dans la droiture. C'est lui qui règnera. Alléluia. Oh, mes frères, désormais, après ce jugement dernier, il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui feront qu'une entité. Et nous serons là, nous qui avons cru, qui avons suivi Jésus, qui avons passé par la repentance et par la croix. Nous serons là, héritiers, nous dit la parole de Dieu, héritiers sur cette nouvelle terre, dans ce royaume. Ce ne sera plus une verge de fer, oh non, car il n'y aura plus aucun opposant. gloire à Dieu. Et nous serons tous avec lui dans un règne de paix. Dans Luc, chapitre 1, verset 33, souvenez-vous, des paroles de l'ange à Marie, « Son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. » Oh, Jésus! « Son règne n'aura pas de fin. Il commencera à régner à Jérusalem, à imposer son autorité. Et il régnera sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et son règne n'aura pas de fin. » Merci, Seigneur. Fils de David, tel était son titre, et tel est son titre jusqu'à maintenant. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme de la descendance de David. C'était son choix. Il y avait eu des promesses par les prophètes, que David ne manquerait point d'héritier sur son trône. Et que ses héritiers régneraient pour toujours. Et voilà, le temps a passé. Et pendant combien de siècles il n'y a plus de roi en Israël? Israël a été dispersé dans le monde à cause de leur dureté de cœur et de leur désobéissance et de leur idolâtrie. Les malédictions annoncées dans les Deutéronomes sont tombées sur eux. À cause de leur infidélité, ils ont été déportés par les Assyriens, les Babyloniens dans leur pays. Ils ont été chassés à travers le monde entier après la prise de Jérusalem par les Romains, vendus en esclavage sur les marchés d'Alexandrie à travers le monde et partout. Oui, mes frères, Israël a été dispersé, mais Israël est en train de revenir sur la terre promise, car Israël est resté Israël. Malgré son infidélité, Dieu s'est souvenu des promesses qu'il a faite à Abraham en faveur de son peuple. Si Israël avait violé l'alliance, Dieu n'a jamais violé l'alliance. Et il a gardé sa part de l'alliance. Et dans sa miséricorde, il est en train de ramener son peuple sur sa terre. La terre qui appartient à Dieu et sur laquelle il a demandé à Israël d'habiter. Ne touchez pas à la terre d'Israël. C'est dangereux. Oui, il régnera. Pendant des siècles, il n'y a pas eu de descendants de David. Mais que voulait dire Dieu alors, lorsqu'il a dit que sa descendance régnerait pour toujours? Dieu savait ce qu'il disait. Cette descendance, elle est en Jésus-Christ. Jésus le Seigneur. Il régnera pour l'éternité. Son règne n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin. Il déléguera une part de son autorité à ses co-héritiers. Le plan de Dieu pour son peuple est d'exercer une autorité sur la terre et dans l'éternité. Jusqu'à maintenant, depuis la création du monde, Dieu a remis la gérance du monde entre les mains d'Adam. C'était un engagement de Dieu, une décision de Dieu. Et Dieu a toujours respecté cet engagement jusqu'à maintenant. Et les hommes ont prouvé qu'ils étaient incapables de gérer correctement la terre. Combien de rois, combien de despotes sont venus dans le monde? Des grands rois, c'est vrai. Dieu leur avait donné l'autorité puisque l'autorité vient de Dieu. D'accord, mais ils ont très mal utilisé cette autorité. Nous voyons ces grands rois. Il n'y en a pas un qui, à travers l'histoire, qui a dépassé Nebuchadnezzar, auquel Dieu a donné des révélations extraordinaires. Mais regardez la cruauté et la méchanceté des Babyloniens et de ses armées. Quant aux Assyriens, quant aux Mèdes et aux Perses, lisez la parole de Dieu et vous verrez toutes les horreurs qu'ils ont commises et tout ce que nous savons par l'histoire, pour ne parler que d'eux. Et que dire de nos temps actuels, de tous les despotes qui ont régné sur nos pays et dans notre monde? Et puis, soi-disant, la démocratie est une solution. Elle est loin d'être une solution. La corruption, plus que jamais, est encouragée par une certaine démocratie qui n'a que l'ambition personnel de l'homme et non pas l'intérêt de ceux qui doivent être administrés. Oh mon Dieu, incapables que nous sommes de conduire et de diriger cette terre. Mais Dieu a voulu que l'homme prenne sa part de responsabilité. N'oubliez pas, toi, qui que tu sois à travers cette république, à travers ce monde, n'oublie pas que cette parcelle d'autorité que Dieu t'a donnée, il t'en demandera des comptes. Et nous avons, chacun d'entre nous, une parcelle d'autorité. Le papa a de l'autorité dans son foyer. Quel genre d'autorité exerces-tu? Pour battre ta femme? Pour faire ce que tu veux? Pour courir après d'autres femmes? Infidélité? Cette autorité qu'il t'a donnée, c'est pour aimer et diriger ton foyer pour la gloire de Dieu et pour préparer tes enfants à affronter la vie. Mais tu n'es aucun exemple pour eux et ces enfants n'ont même pas un exemple, n'ont même pas un modèle, un modèle. Ils s'en vont dans le monde sans avoir eu jamais aucun modèle. Aucun exemple digne d'être suivi. Et nous voyons notre jeunesse être complètement dévoyée, complètement détournée, perdue dans des aberrations morales et spirituelles. Ô homme, tu auras à rendre compte devant Dieu pour cette part d'autorité que Dieu t'a confiée. Mon frère, ma sœur, nous vivons dans les derniers temps, le jour des comptes arrive. Dieu, le plan de Dieu pour son peuple est d'exercer une autorité sur la terre et dans l'éternité, car Dieu n'a pas changé d'idée. C'est pourquoi nous voyons que sur la nouvelle terre, il y a des nations, il y a des rois qui viendront dans la nouvelle Jérusalem pour apporter leur tribut au roi des rois. Oui, ce nom de Jérusalem demeurera éternellement. Malgré les efforts des hommes pour rayer de la carte cette ville, leurs efforts même pour en changer le nom, ils ne réussiront pas. C'est la ville du grand roi. Et dans l'éternité, il y aura la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu veut en garder la mémoire. Il est bien dit dans la parole de Dieu que quand nous serons là-haut dans la gloire avec lui, nous n'allons plus nous souvenir de toutes ces choses mauvaises, d'abord que nous avons faites nous-mêmes et des choses mauvaises que nous avons vues ici-bas sur la terre. Ceci sera effacé de notre mémoire, mais il y a des choses qui resteront dans la mémoire pour l'éternité. Jérusalem, alléluia, la croix, le sacrifice, et Jésus, homme, dans son nouveau corps, portera pour l'éternité les stigmates de son martyr par amour pour le monde perdu, pour le salut des âmes. Frères et sœurs, ça restera. Nouvelle Jérusalem, ça doit rester dans la mémoire de l'éternité. Nouvelle! Pourquoi? Parce que là où il n'y aura plus de sang qui sera versé injustement, il n'y aura plus le méchant qui va essayer par tous les moyens de supplanter le juste, le droit, le bon, celui qui a la promesse, qui est héritier de la promesse. C'est ce que Satan a essayé de faire pendant des siècles envers Jérusalem. Il nous est bien dit que des rois viendront à la nouvelle Jérusalem pour apporter leur tribut au roi des rois. Lisons Apocalypse 21, versets 23 à 24, il est dit: la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Là, il s'agit bien de la nouvelle terre. Plus de soleil, plus de lune. La gloire de l'Éternel remplit la nouvelle terre. Mais il y aura des nations, c'est ce qui est dit. Donc, s'il y a des nations, il y a des responsables de chaque nation, avec un système de gouvernement pour chaque nation. Ce ne sera pas une démocratie. Merci Seigneur. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Les rois de la terre, de la nouvelle terre, des hommes donc qui ont reçu de la part du grand roi, du maître de cette terre entière, qui auront reçu une part d'autorité pour la gérance de leur territoire. Verset 26, du même chapitre. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Où? Dans la nouvelle Jérusalem. Dans ce royaume éternel, sur la terre nouvelle, la terre appartiendra aux élus. Chacun aura sa propriété et partagera l'autorité du roi. Il est bien dit combien de fois dans la parole de Dieu que nous régnerons avec lui. Ce n'est pas moi qui dis ça. Donc, il est question là d'une part d'autorité et de responsabilité. Nous régnerons avec lui. Pourquoi se battre pour une autorité ici-bas sur cette terre alors que tout est corrompu et que les hommes ne veulent même pas suivre en chemin de la droiture et de la vérité? Non. Je veux combattre pour le royaume des cieux. Je veux combattre pour ce qui demeure, ce qui est vrai, ce qui est juste. Je veux combattre l'ennemi Satan qui veut détruire la création. Ce royaume appartiendra aux élus. Chacun aura sa propriété et partagera l'autorité du roi. Les méchants n'y auront pas de place. Ils auront été retranchés. C'est ce que nous avons lu là, dans ces versets, dans les psaumes. Les méchants en seront retranchés. Ils ne seront pas là. C'est simple. Ils seront avec celui qu'ils ont voulu servir, parce qu'ils étaient méchants. Oh, la méchanceté! Nous la voyons tous les jours. La méchanceté, l'injustice des hommes qui, par simple ambition personnelle, oppriment leurs prochains. Ils sont méchants. Méchants dans leur manipulation de la loi. Ils sont méchants dans leurs décisions qui portent à conséquence dans les tribunaux, les juges. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais encore, on me parlait encore comme aujourd'hui. La justice est terriblement corrompue. On achète avec l'argent, on achète son droit, qui n'est pas un droit, puisqu'on a tort. Mais on achète un soi-disant droit, soit sur une propriété, soit dans une affaire quelconque. Injustice! Est-ce que cela peut durer? Oh non! La colère de Dieu est contre cette oppression innommable de ceux qui ont l'autorité pour décider dans la justice, mais qui décident dans le mensonge, simplement pour un avantage pécunier pour leur propre poche. Oh mon Dieu, ta compassion! Le royaume éternel, je languis pour ce royaume. Dieu avait donné à Adam et Ève une propriété. Oui, il leur avait donné le jardin d'Éden. Ce n'était pas toute la terre, c'était une certaine surface assez importante. Un jardin formidable, un jardin merveilleux. Un jardin où il y avait des plantes, où il y avait des légumes, où il y avait des arbres fruitiers, il y avait des rivières limpides et propres, pas de pollution, il y avait des animaux et personne ne s'entre-déchirait, non. Et ils devaient vivre là. Dieu les appelait à vivre là et d'entretenir le jardin. Un environnement agréable pour que l'homme y vive heureux. Dieu a toujours voulu que l'homme vive heureux. C'est Satan qui veut nous mettre le malheur. Le malheur. L'homme a besoin d'un environnement agréable. Et du reste, nous le voyons jusqu'à aujourd'hui. Chacun se bat pour avoir sa petite portion de terre quelque part. et il se bat pour construire sa maison, sa petite maison, selon ses moyens. Et vous le voyez, et ceci fait tellement mal au cœur, acheter un sac, deux sacs ce mois-ci de ciment, il va faire quelques briques, il va prendre peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans pour construire sa maison. Sa maison, c'est son espoir, c'est son espoir. Vous le voyez peiner avec un petit salaire pour essayer d'avoir un logement potable, un logement pour sa famille, pour ses enfants. Il voudrait que ses enfants soient heureux. Mais, la conjoncture, comme on dit. Eh oui, à qui la faute dans un pays immensément riche? À qui la faute dans un pays où il y a plein de diamants et d'or, une terre fertile qui produit? À qui la faute dans un pays où il pleut tout le temps et il y a vraiment une bonne terre et suffisamment d'eau? À qui la faute? Le péché! Oh Dieu! Et cet homme va essayer d'avoir sa petite maison. Et le jour où il a sa petite maison, il doit payer les taxes, le pauvre gars. Et combien de taxes? Non pas une fois par an, mais combien de fois on va venir pour essayer de soutirer quelque chose de sa poche? Soi-disant que, oh mes amis! Oui, ça c'est notre malheur. Seigneur, cette terre ne nous suffit plus. Nous attendons ton règne. Nous attendons ton règne, Seigneur. Il va essayer de monter monter une protection autour de sa maison avec des murs. Et comme il veut économiser le ciment, il y met trop de sable. Alors avec les pluies, ces briques perdent leur solidité. Et puis elles se démolissent petit à petit. Vous savez de quoi je parle, bien sûr. Oh Jésus. L'homme cherche un certain confort. Un certain confort, et il y en a droit. Un environnement harmonieux pour y vivre heureux, car c'est la volonté de Dieu. Mais une telle chose est-elle possible aujourd'hui? Seulement aux riches, mais pas aux pauvres. Déséquilibre dans la société. Déséquilibre, larmes et souffrance. Dans les lois bibliques, il y a beaucoup de références à la propriété et à l'économie. Dieu n'est pas indifférent à ces choses, croyez-moi. Le salut que Jésus nous a acquis ne nous sauve pas du monde matériel et physique. Non, ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Mais il nous sauve du péché. Du péché et de la malédiction est ce que produit la malédiction. C'est-à-dire la mort. La mort. Jésus est venu nous sauver de cela. Il n'est pas contre ce monde physique. Il n'est pas contre cette maison que nous voulons construire. Il n'est pas contre cet environnement que nous voulons meilleur. Mais alors que le péché augmente, l'environnement se désagrège de plus en plus. Et l'air que nous respirons devient infect. Et engendre toutes sortes de maladies à cause du péché et de l'égoïsme de l'homme. Oui, les conséquences du péché, c'est la mort. Non pas la cessation de l'existence. Non, la cessation de l'existence n'existe pas pour l'homme. Mais la mort, selon la Bible, c'est une existence sans Dieu. Une existence dans un environnement négatif, avec celui que nous avons voulu servir dans la rébellion et la désobéissance, c'est-à-dire Satan. Nous sommes pèlerins et voyageurs ici-bas sur cette terre. Nous ne faisons que de passer sur cette terre. Quel est le nombre de nos années? Nous n'en savons rien. Mais nous sommes des passagers. Nous nous donnons beaucoup de peine pour les quelques peu d'années que nous vivons sur cette terre. Qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer pour vivre dans l'éternité? Et dans quelle éternité? Nous serons un jour des résidents éternels, si nous avons cru, sur la nouvelle terre. Ce sera notre place pour toujours, dans un environnement merveilleux. Lisons Proverbe 2, 21 à 22. Il est dit là. Proverbe 2, 21 à 22. « Car les hommes droits demeureront dans le pays. » Ah, dans quel pays? Ce n'est pas celui-ci. Il est passager. Et notre existence est passagère. Voilà. Peut-être que tu es un homme droit parce que tu as passé par la croix et tu as été changé. Mais ce n'est pas pour cela que tu possèdes. Tu es en train de lutter chaque jour pour ta vie de tous les jours. Ne t'en fais pas. Encore un peu de temps, c'est tout. Il est à la porte. Il est à la porte. Les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles y seront arrachés. Pas de place sur cette nouvelle terre pour les infidèles et les méchants. Proverbe 10, 30. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. Quel pays? Mais le pays éternel, là où nous allons, la terre promise. Si Israël était en cheminement à travers le désert pour atteindre la terre promise, par Dieu promise à Abraham, par l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, nous, frères et sœurs, nous sommes en marche dans ce désert du monde, en marche vers cette nouvelle terre. Alléluia. Oui, c'est vrai, il y a toutes sortes de tentations dans ce désert que nous traversons, toutes sortes de peines, de souffrances, c'est vrai, toutes sortes de choses, mais nous regardons au-delà de cette terre et nous voyons la promesse qui se réalisera bientôt. La terre nouvelle est notre résidence permanente, éternelle, où nous serons propriétaires de l'espace que nous occuperons. Christ lui-même a dit ceci dans Apocalypse 3:12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Cette nouvelle Jérusalem, elle est préfabriquée. Voilà. Elle est préfabriquée. Et au moment opportun, elle descendra pour se poser sur cette nouvelle terre et ce sera notre résidence. Oui, ce sera encore et toujours Jérusalem. Lorsque nous lisons dans l'histoire et que nous voyons la peine et la souffrance qu'ont dû endurer les premiers chrétiens, les chrétiens, les oints, Christ veut dire le oint comme Messie, Christ en grec, Messie en hébreu, le oint. On parlait des chrétiens par dérision pour se moquer d'eux, oh les oints. On se moquait d'eux. Et pourtant, plût à Dieu que nous soyons des oints, oints de l'Esprit de Dieu, marchant avec lui, progressant sur ce chemin que nous avons décidé de marcher, sur lequel nous marchons, ce chemin étroit qui mène à la cité céleste. Ces premiers chrétiens et des chrétiens à travers tous les âges, des millions et des millions, sont morts, tués par leurs ennemis. Certains ont été délivrés, mais tous n'ont pas été délivrés. Lisez Hébreux chapitre 11. Il est parlé de tous ceux qui ont préféré la mort plutôt que de renier celui dans lequel ils ont cru. Ces premiers chrétiens jetés aux bêtes féroces dans les arènes romaines, ces premiers chrétiens tués, martyrisés, à travers tous les âges, toutes les époques, le peuple juif qui a été persécuté à travers tous les âges. Je pense à ce roi, Antiochus Épiphane, qui a persécuté les juifs à outrance, qui est une image, il est une image de l'Antichrist. Il est allé jusqu'à profaner le temple à Jérusalem et à sacrifier des cochons détruit sur l'autel de l'Éternel dans le temple à Jérusalem. Lisez l'histoire, la souffrance énorme à travers laquelle tant d'hommes et de femmes qui ont suivi ce chemin que nous voulons suivre ont dû endurer. Mais l'ennemi n'a pas réussi. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est dans ce monde. Elle se propage à travers le monde par toutes sortes de moyens. Et nous serions étonnés de savoir les millions et les millions d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Non pas une religion ou un système, mais une personne, Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Et vous, l'avez-vous reçu dans votre cœur? Vivez-vous pour lui? Êtes-vous de son peuple? Avez-vous votre résidence là? Les temps sont courts. Remarquons, comme il est répété, que la terre appartient à Dieu et à son peuple. Ceci est annoncé dans les psaumes, dans les proverbes, dans Ésaïe, à travers toute la Bible. Il est dit que la terre appartient à Dieu et à son peuple. Elle n'appartient pas aux injustes. Aux injustes et aux méchants et aux corrompus qui ont l'autorité dans les temps que nous vivons aujourd'hui, dans ces temps qui passent. Ils peuvent prétendre avoir l'autorité, mais ils doivent savoir qu'ils seront appelés à rendre compte de leur gérance. Et s'ils ne se repentent pas, ils seront destitués. Chassés, jugés. Dieu va établir sa justice sur cette terre. C'est pourquoi Christ va régner 1000 ans sur cette terre avant d'établir son royaume sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, et ensuite son royaume sur la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem après son règne de 1000 ans. Psaume 8. 7. Il est écrit là, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. » Là, le psalmiste parle de l'homme. Tu as donné à l'homme la domination, tu as tout mis sous ses pieds. La domination sur l'œuvre de tes mains. Et l'homme s'est trouvé indigne. Dieu n'est pas revenu en arrière dans sa décision. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme domine. L'homme domine et combien de millions d'hommes et de femmes souffrent à cause d'une domination despotique et méchante. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de gérer cette terre. Mais à cause de son péché et de sa rébellion, le monde entier est sous un esclavage insupportable. Mais il dit aussi, dans le psaume 24, verset 11, « À l'Éternel, la terre est ce qui la remplit, le monde est ce qui l'habite. » À l'Éternel. Psaume 25, 12 et 13. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? » L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. Voilà. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Cet homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montrera le chemin qu'il doit choisir. Il ne va pas aller à tâtons, mais il marchera d'un pas sûr et certain. Et il possédera sa descendance possédera le pays. Quel pays? Cette terre nouvelle. Dieu a donné la terre à gérer à l'homme. Mais cette terre appartient à Dieu, ainsi que tous ceux qui l'habitent. Psaume 47, verset 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Qui peut échapper au jugement de ce Dieu? Avec lui, il n'y a pas d'impunité. Notre société souffre aujourd'hui à cause du manque de discipline et de l'impunité. Et c'est pourquoi tout le monde tombe dans des égarements de tout genre, à tous les niveaux. Et quand on veut exercer la discipline, on s'étonne. Non, mes frères, soyons des hommes et des femmes responsables, car le jour vient où Dieu lui-même prendra en main la destinée de cette terre. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Christ est digne de prendre autorité et d'exécuter la volonté de Dieu. Dimanche passé, nous avons parlé de Christ, l'agneau qui a été immolé. Jean était là, dans les parvis éternels. Et il y avait un livre à ouvrir avec sept sceaux. Et personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir le livre, si ce n'est que l'agneau qui a été immolé. Jésus, le Seigneur, l'homme parfait, pour prendre ce livre avec sept chapitres scellés, où il y a toutes les décisions de Dieu et toute la marche à suivre pour la purification de la terre. Seul Jésus était capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Il fallait un homme pour le faire. Ceci concerne la terre, celui qui est devenu homme en notre faveur. Les jugements tomberont sur les hommes rebelles afin de purifier cette terre et d'en faire une terre, de cette terre, le lieu de son gouvernement pendant 1000 ans avant de s'établir sur la nouvelle terre avec ses fidèles pour toujours. Et pour finir, j'aimerais lire ce passage de Proverbe 11, 31. Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur, s'il y a une rétribution pour le juste, une rétribution positive, une récompense, une bénédiction pour le juste, à plus forte raison, le méchant recevra aussi une rétribution. N'oublions pas cela. Dans quel camp te trouves-tu, mon frère? Dans le camp des justes ou dans les camps du méchant? Le méchant est désigné méchant par ses œuvres, par ses actions, par sa bouche, par tout ce qu'il fait, par ses intentions. Il peut avoir une religion, mais ceci n'intéresse pas à Dieu. Est-ce qu'il obéit au commandement de Dieu? Est-ce qu'il obéit à la loi de Dieu? Si son comportement est contraire à la loi de Dieu, il est méchant. Et les méchants seront retranchés. Je vous en supplie, mes frères, examinons notre cœur. Le Seigneur, le roi des rois, vient bientôt. Et bientôt, cette terre passera sous son gouvernement. Après sept ans de règne de l'Antichrist, 7 ans d'un règne de jugement, Dieu va le laisser travailler pendant 7 ans. Dieu va le laisser afin que les hommes apprennent ce qu'ils ont refusé d'apprendre. Il y aura des guerres terribles. Il y aura toutes sortes de cataclysmes sur cette terre. Mais l'Église, ses fidèles, ses enfants seront enlevés avant ces 7 ans. Et reviendront après ces 7 ans avec lui, pour régner avec lui dans un nouveau corps sur cette terre et le reste de la population qui sera dans ce monde, dans un environnement qui sera complètement renouvelé. Pour 1000 ans, il va faire la démonstration de ce qu'il avait voulu. Mais malheureusement, il y aura encore à travers ces 1000 ans des rebelles qui le rejetteront. Faisons-nous partie de son royaume? Écoutez, mes frères, nous avons la possibilité, nous, aujourd'hui, à notre époque, nés pendant ce temps-là, à choisir d'être dans son royaume. Si nous rentrons dans son royaume, quand il reviendra, il nous prendra et nous aurons un nouveau corps. Désormais, pour nous, plus de tentations, plus rien, une nouvelle vie avec lui, pour régner avec lui. Faites-vous partie de ce royaume? Baissons la tête. Seigneur, tu nous parles encore ce matin des choses à venir. Ô Dieu, nous avons besoin, Seigneur, de nous rappeler ces choses. Trop souvent, nous lisons notre Bible sans bien comprendre ce qui est écrit. Mon Dieu, ouvre-nous l'intelligence du cœur et fais-nous comprendre que nous vivons dans les derniers jours, que tu es à la porte, que tu viens bientôt. Le temps est court et que déjà maintenant nous pouvons faire partie du royaume et que nous avons tout le bénéfice aujourd'hui, en rentrant dans le royaume, d'échapper à la colère qui vient. Comme disait Jean-Baptiste dans ses prédications au bord du Jourdain, fuyez la colère à venir, car voici déjà la cognée est mise à la racine des arbres et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quels sont les fruits de ta vie? C'est lui qui jugera. Veux-tu rentrer dans le royaume? Alors lève-toi, qui que tu sois, là où tu es, et nous prierons avec toi. Veux-tu rentrer dans le royaume? Il faut une décision personnelle. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans le royaume. Merci Jésus. Ceux qui veulent rentrer dans le royaume, c'est-à-dire qui n'y sont pas encore, mais qui, à partir de maintenant, veulent rentrer dans le royaume, cet appel s'adresse à vous, mes frères. Oh Jésus, merci. Tous ceux qui se lèvent sur les balcons, oh merci Seigneur. Dans la salle, rentrez dans le royaume. Là, il faut notre engagement personnel. Là, il faut notre décision personnelle. Là, il est nécessaire que chaque individu prenne cette décision, car rien ne sera fait avant que nous prenions nous-mêmes la décision. C'est offert gratuitement dans le royaume. Seigneur, tu vois ces nombreuses personnes qui se lèvent à travers cette salle. Souviens-toi, Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Ô mon Dieu, pour inscrire leur nom dans ton livre de vie. Seigneur, pour les incorporer dans ton royaume. Seigneur, donne-leur la force de marcher avec toi. Il y aura des combats, il y aura des luttes. C'est vrai. Mais mon Dieu, je te prie, ô Dieu, rends-les plus forts, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils abandonnent, Seigneur, qu'ils cherchent la force auprès de toi. En toi, le secours, la sagesse, tout. Pour la vie, non pas pour la mort. Ô Jésus, sauve-les, je t'en prie. Sauve-les. Sauve-les maintenant. Tu vois leur décision publique. Seigneur, ils veulent rentrer dans ton royaume. Merci, Père. Asseyez-vous. Seigneur, veuille sanctifier les offrandes et les dîmes qui te sont présentées aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, nous te demandons que tout cela soit utilisé pour ta gloire, pour le salut des perdus. Seigneur, tous ces sacrifices, je le connais, Seigneur, de ces gens, de beaucoup de ces gens qui ont tant de petits salaires. Donne-nous la sagesse pour l'utilisation de cet argent et que ceci soit investi dans les valeurs éternelles. Seigneur, permets que rien ne manque à ceux qui donnent à cette heure. Sanctifie maintenant ces offrandes au nom de Jésus. Merci, Père.
Rentrez dans le royaume où son règne est éternel. Et en étant libre de nos chaînes, Jésus-Christ régnera en nous. Alléluia.
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine
a fermé nos pas. Armée de lumière.
Sur la terre, mes âmes.
du Seigneur soit béni. Quelques communiqués avant que nous puissions nous quitter. Donc il y a dévotion matinale chaque jour, sauf le dimanche, de 6h à 7h, ici dans la grande salle. Les conseillers sont disponibles à la fin des cultes pour les nouveaux venus et ceux qui ont besoin d'entretien. Et pour la fin du deuxième culte, ils se trouvent derrière la paillote. Chaque mardi, nous avons des réunions ordinaires. Cela pour les mamans, à 16h, ici dans la salle. Et les papas se retrouvent au deuxième niveau de notre bâtiment, à l'école maternelle. Et ECODIS, c'est chaque mardi aussi, école de disciples, là-bas, au jardin de l'église. Et le thème qu'ils exploitent, c'est les sectes pernicieuses. Et chaque mardi aussi, il y a dépistage volontaire et gratuit du VIH-SIDA. Donc à partir de 10h jusqu'à 14h. Les résultats, c'est le même jour. Et cela, c'est au premier niveau.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.